La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons, dans le cadre de la justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, l'exploration de ce film De Torre Scola, une journée particulière, en compagnie de Nicolas Thirion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Magali.
Exploration autour des thématiques politiques et juridiques. Nous avons commencé à évoquer la situation de Gabriele, c'est-à-dire le personnage interprété par Marcello Mastroianni, autour de sa situation d'homosexuel sous l'Italie fasciste. Donc situation juridique qui ne faisait pas l'objet d'une incrimination, mais qui pour autant subissait un certain nombre de mesures, et parmi ces mesures, la mesure d'éloignement, El confino di polizia, qu'il va lui-même subir d'ici quelques heures. Et il va rejoindre cette communauté des exclus en Sardaigne. Qui avait-il d'autre dans ces relégués de Sardaigne, dans ces confinés ?
Alors il y avait, j'allais dire, un peu de tout, puisque le mot subversion étant employé dans le texte qui autorisait ces déportations, au fond, tout peut être subversion d'une façon ou d'une autre. Donc à côté de ces homosexuels, il y avait évidemment beaucoup d'intellectuels qui étaient également éloignés parce que, par leur travail, par leurs écrits, ils étaient censés menacer la glorification de l'Italie mussolinienne. Alors on pense évidemment au cas de Carlo Levi, hein, qui a écrit ce grand livre « Le Christ s'est arrêté à Eboli » et qui a lui aussi fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Alors évidemment pas du tout pour des raisons sexuelles, mais pour des raisons simplement politiques. Un auteur qui n'était pas suffisamment enthousiaste à la gloire de Mussolini pouvait faire l'objet de telles mesures. Donc intellectuel, artiste, et évidemment minorité sexuelle, tout cela pouvait effectivement très rapidement se retrouver dans les régions les plus désolées, les plus désertiques, les plus pauvres de l'Italie, puisque c'était évidemment dans ces régions désertiques et pauvres que ces confini di polizia pouvaient avoir lieu.
Parallèlement des mesures pénales, des mesures administratives, il y avait des mesures aussi fiscales à l'encontre des homosexuels. À un moment donné, dans le film, il est question d'un impôt sur le célibat.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, d'une façon ou d'une autre, dans la vision mussolinienne et dans la vision fasciste, plus largement, de l'homme, l'homme, non seulement, c'est celui qui concourt à la gloire du nouvel empire mussolinien, mais c'est aussi quelqu'un qui féconde, et qui féconde sa femme en particulier. Donc, évidemment, il y a une vision de la famille et une vision de la vie conjugale qui est extrêmement glorificatrice et qui tient dans l'ombre, ou plus exactement même, qui va pénaliser, y compris par des mesures diverses et variées, qui va pénaliser des modes de vie qui ne sont pas les modes de vie conformes à ce qui est considéré comme étant le mode de vie favorable à l'émergence, au développement et au succès de l'entreprise mussolinienne.
L'entreprise mussolinienne, oui. Nous allons écouter un dernier extrait.
Pure io tante volte mi sento umiliata, considerata meno di zero. Mio marito con me non parla, ordina, di giorno e di notte. E da quando eravamo fidanzati che non ci facciamo più una risata insieme. Lui ride fuori casa, con le altre.
Ma come, non ti è fedele? Mi sembravi una moglie felice, sicura.
Fedele. Alla patria. Sai quei posti dove vanno gli uomini a pagamento? Lui è conosciuto più lì che nel suo ufficio. Ma finché erano quelle lì, invece il mese scorso ho trovato una lettera di una certa Laura che fa la maestra elementare in via Ruggero Bonchi. Mettersi con un'istruita. È come se mio marito è come dire a una moglie che è una mezza calzetta, un ignorante. Vero, è vero, io a scuola ci sono andata poco o niente. E una lettera come quella, anche quando gli volevo bene, non gliel'ho mai scritta. Ma perché non la so scrivere? Un ignorante gli puoi fare qualunque cosa perché non c'è rispetto.
Où sommes-nous avec cet extrait?
Alors là, nous poursuivons en quelque sorte la double confidence ou la confidence réciproque que Antonietta et Gabriele se font. Et Gabriele s'est confessé, ou en tout cas a révélé à Antonietta le motif de sa réclusion, de son exclusion. Et elle, à son tour, lui ouvre son cœur et lui ouvre au fond la porte d'une vie où elle explique à quel point elle a été humiliée, meno di zero, donc moins que zéro, moins que rien, par un mari qui ne parle pas mais qui ordonne, et attachée qu'elle était à toutes les tâches ancillaires. Et ce qui semble ici provoquer encore plus sa tristesse, et en tout cas la considération de sa condition, c'est qu'elle dit avoir récupéré une lettre qui montre que son mari a une aventure avec une certaine Laura, qui est une maîtresse d'école, et à laquelle il avoue que sa propre femme, son épouse, c'est-à-dire elle, Antonietta, n'est qu'une ignorante. Donc elle est vraiment dans l'état de la femme qui, certes, a derrière elle déjà tout le poids de l'infériorisation juridique que les femmes ont en général. Donc le code civil italien en vigueur à l'époque est un code inégalitaire où la femme est l'inférieure de l'homme, ou en tout cas la femme mariée est la servante de son mari. Mais à cela s'ajoutent des considérations à la fois de manque social, de manque matériel et de manque culturel, qui fait d'elle véritablement la femme la plus infériorisée qui soit.
Situation juridique qui n'est pas en faveur des femmes, mais situation juridique qui était rehaussée, pourrions-nous dire, au moment où Scola a tourné son film.
Alors justement, c'est tout le propos de Scola qui est très intéressant, évidemment. C'est que Scola fait un film sur le fascisme et sur la situation faite à deux types de catégories à cette époque, mais que derrière ce film historique, Scola voulait également mettre en avant la situation qui continuait d'être faite au moment où le film sort, donc dans les années 1970, aux femmes et aux homosexuels, puisque l'on aurait pu penser que la chute du fascisme et l'avènement de la République italienne allaient, comme d'un coup de baguette magique, allaient faire reculer ces inégalités structurelles. Or, même si en 1947 la Constitution italienne prévoit l'égalité, et notamment l'égalité entre les sexes, ce n'est que dans les années 1970 que le législateur va adopter les premières lois réduisant d'une certaine façon ces inégalités entre hommes et femmes. Et donc au moment où le film sort, en 77, eh bien ces lois sont soit à peine votées, mais donc guère mises en application que depuis quelque temps, soit à l'état simplement de projet qu'il faut encore voter. Par exemple, le projet de loi sur l'avortement n'intervient qu'en 78. Donc il est en discussion au moment où le film sort, mais il n'est pas encore voté. C'est dire à quel point le sort des femmes dans les années 1970 en Italie, y compris du point de vue juridique, commence plus ou moins à s'améliorer, mais on est tout à fait loin d'une situation radicalement différente de ce qui se passait en 1938. Il y a encore cet élément-là, qui n'est pas un élément uniquement juridique, qui est un élément culturel, social, d'infériorisation de la femme par rapport à l'homme. Et évidemment aussi, d'infériorisation de l'homosexuel par rapport aux hétérosexuels, puisque là encore, rien n'a changé fondamentalement dans les années 1970 en ce qui concerne le sort des homosexuels. Il n'y a plus de confino di polizia, mais il y a encore des poursuites pénales basées sur des infractions qui sont des infractions qui ne visent pas spécifiquement les homosexuels, mais dont on se sert pour viser plus spécifiquement les homosexuels.
Et en particulier le délit d'emprise.
Le délit d'emprise, qui est une sorte de délit un peu étrange, qui est une sorte de délit de subjugation, donc qui consiste au fond pour un individu à se soumettre la volonté d'un autre individu. Et il y a eu deux cas qui ont fait l'objet de poursuites en Italie. Le cas d'un prêtre qui se serait soumis la volonté d'un certain nombre de fidèles, c'est-à-dire au fond ce qu'on appellerait aujourd'hui un début de phénomène sectaire, et l'autre grand cas qui a donné lieu à une condamnation qui a fait grand bruit dans les années 1960, c'est la condamnation d'un intellectuel italien homosexuel qui avait prétendument séduit un jeune homme d'une bonne famille bourgeoise catholique et que cette famille bourgeoise avait poursuivi, ou en tout cas avait fait poursuivre, au prétexte que leur fils ne pouvait en aucun cas être homosexuel et que s'il l'avait été, c'était sous la subjugation de cet intellectuel. Et c'est le seul cas de condamnation à plusieurs années d'emprisonnement, hein, le seul cas de condamnation sur la base de ce délit d'emprise après-guerre.
C'est l'affaire Brebanti.
L'affaire Brebanti.
Actuellement, quelle est la situation juridique des femmes et des homosexuels en Italie sous le gouvernement de Giorgia Meloni?
Alors, les lois des années 1970 ont fini par être mises en œuvre, pour partie. Et donc, on constate que même aujourd'hui, en 2024, certaines de ces lois restent lettre morte, ce qui devrait nous inciter, ou inciter les juristes, à beaucoup de modestie. C'est que les réformes juridiques ne font rien si, dans la société, elles ne sont pas d'une façon ou d'une autre acceptées ou mises en œuvre. Alors, je prends l'exemple de la loi de 78 sur l'avortement, qui aujourd'hui encore en Italie fait l'objet d'un grand nombre d'obstacles quant à son application. Un très grand nombre de médecins font encore valoir ce qu'ils appellent l'objection de conscience, et donc il y a des régions entières où les femmes ont énormément de mal à se faire avorter. Donc évidemment, les phénomènes de pauvreté et les phénomènes de relégation dans des régions peu desservies fait qu'encore une fois, ce sont les femmes les plus modestes qui souffrent de la non-application de cette loi. Donc, les lois ne sont pas appliquées, ou bien les lois sont appliquées dans un contexte tout différent depuis l'élection, en effet, de Madame Meloni, dont le slogan électoral était « Dieu, famille, patrie », et qui est une façon, en quelque sorte, de remettre au goût du jour le rôle d'une femme qui est une femme, là encore, toute dévouée à l'éducation des enfants et au bien-être du mari. Donc on a, si vous voulez, quelque chose qui montre, là encore, une forme de continuité avec le passé, dont on ne s'étonnera pas, puisque le parti de Madame Meloni est, comme on le sait, l'héritier en ligne directe du parti fasciste. Et on ne va pas s'étonner, mais il se trouve qu'il y a donc une continuité étonnante entre ce que l'on voit dans le film de Scola et la situation actuelle. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est plus du tout la même chose, mais On ne peut pas dire, là encore, que la situation d'aujourd'hui soit radicalement, radicalement différente de celle des années 30 ou des années 70.
Et du côté des homosexuels, quelle est leur situation? Parce que le droit européen, en particulier du côté du texte de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, ont fait progresser leurs droits.
En effet, donc là aussi, on peut constater que les choses ne sont plus les mêmes, et en particulier qu'il ne serait plus question aujourd'hui de poursuivre pénalement sur la base d'incriminations fourre-tout des homosexuels. En revanche, le combat pour une certaine égalité des droits a eu énormément de mal à trouver des succès en Italie. La preuve en est, c'est que l'Italie, c'est sur la base d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme que l'Italie a fini par introduire un statut d'union civile pour les couples homosexuels. Donc ce n'est qu'en 2016 finalement que cette union civile a été adoptée, quand on rappelle que le PACS a été adopté en 99 en France. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté et que le mariage est toujours réservé aux couples hétérosexuels et que l'adoption plénière pour les couples de même sexe est interdite. Donc il y a à nouveau des progrès, mais ces progrès sont beaucoup plus lents, semble-t-il, que dans d'autres parties de l'Europe. Et pour terminer, il faut également ajouter que certaines techniques de procréation telles que la PMA ou la GPA restent non seulement interdites, mais que les juges italiens qui avaient autorisé auparavant la possibilité de transcrire sur les registres de l'état civil ce type d'opération lorsqu'elles avaient été validement menées à l'étranger, que cette jurisprudence a été, à un temps au moins, a été arrêtée par le gouvernement Meloni, qui voulait à tout prix refuser de donner le moindre effet sur le territoire italien à de telles opérations menées valablement à l'étranger.
Voilà, donc ici, des questions de gestation pour autrui.
Gestation pour autrui et de procréation médicalement assistée.
Voilà, né à l'étranger,
oui.
Et dont les parents voulaient assurer, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'inscription juridique dans les actes d'état civil italien. Donc le fait d'avoir choisi deux acteurs célèbres, évidemment, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, a permis le film de perdurer, puisque le film n'a pas vraiment eu un succès au moment de sa sortie, en raison des thématiques traitées. Mais est-ce que ce film est encore actuel ?
Alors, je pense qu'il l'est, évidemment. Alors il n'a pas eu autant de succès parce que, comme vous le disiez, notamment à travers le personnage de la concierge, Madame Cecilia, c'est évidemment un miroir peu flatteur qui est tendu aux Italiens, puisque les Italiens ont très largement soutenu Mussolini jusqu'à l'entrée en guerre, approximativement. Alors évidemment, ça reste d'actualité parce qu'effectivement, nous voyons qu'en Italie même, les thématiques du film continuent d'être développées, continuent de donner lieu à des débats, qu'il s'agisse, encore une fois, d'une vraie place de la femme et d'une vraie autonomie de la femme, notamment quant au choix d'avoir un enfant ou pas, par exemple, ou quant à la situation des homosexuels, on voit que la situation n'a pas complètement changé, qu'elle mérite en tout cas de continuer à faire débat. Et c'est la raison pour laquelle ce film a donné lieu très rapidement par la suite à des adaptations théâtrales sur la base du scénario, et que jusqu'à aujourd'hui, plusieurs mises en scène ont eu lieu, et que manifestement, quand on voit la réaction du public ou des critiques, c'est une pièce désormais qui parle encore au public et qui parle encore aux critiques, un peu comme si effectivement le fait que le texte sur la base duquel cette pièce a été mise en scène date de plus de ou de près de 50 ans, et bien malgré le fait que près d'un demi-siècle s'est passé depuis ce film, il y a ce sentiment qu'il reste encore d'une façon ou d'une autre d'actualité parce qu'il est dans une certaine mesure universel.
Eh bien, c'est avec ce mot de conclusion que nous conclurons notre série d'entretiens avec Nicolas Tirion autour d'une journée particulière, donc le film De Torre Scola de 1977 avec les deux magnifiques interprètes que sont Sofia Loren dans le rôle d'Antonietta et Marcello Mastroianni dans le rôle Gabriele. Merci à toutes et à tous et merci à Nicolas Tirion.
Merci Magali.
Et merci à Marin Hirsinger et à Léobardo Arango pour tout ce qui concerne l'accompagnement d'Amicus Radio. Au revoir à toutes et à tous.